Gloire à Dieu. J'ai un ami qui est en train de construire une maison. Et puis, il y a Simon aussi, je pense, qui se construit. Puis, il y en a quelques-uns, probablement, ou sont en train de regarder pour une construction. Et puis, si on pose à ces gens-là la question suivante, est-ce que tu as suivi ton plan à la lettre? Je suis convaincu que la réponse est non. Hein? Ceux qui ont un peu d'expérience là-dedans, ils savent tous qu'à un moment donné, bon, ben là, ouais, je pense que ça irait mieux si on ferait ça comme ça. Fait que là, ils font leur possible, ils font la modification. Puis là, un peu plus tard, à cause qu'on a fait ça, ça marche plus. Fait qu'on va refaire une autre modification. Je pense que si on fait ça, on devrait être bon pour corriger ce que notre première modification a amené. Et puis là, ça va ainsi de suite à travers le projet. En plus de ça, souvent, ben, on fait des erreurs. C'est pas toutes les modifications qui sont voulues, désirées. Et fait que là, en bout de ligne, quand on prend les modifications qui ont entraîné d'autres modifications, qui ont entraîné aussi, ben, on rajoute à ça des erreurs qui ont été faites, les modifications qu'il a fallu faire pour corriger les erreurs, ben, en bout de ligne, le produit fini, on regarde le plan, ben, il va y avoir des différences. Souvent, c'est caché dans les murs, souvent, ça paraîtra pas trop. Mais celui qui a construit la maison, lui, il sait. On sort d'un projet de construction, je suis convaincu qu'il s'est passé la même affaire ici dans la construction. Ceux qui ont participé, ils l'ont sûrement expérimenté. Une autre chose aussi, quand on achète un meuble IKEA, pourquoi est-ce qu'il me reste tout le temps des vis à la fin? Autre ceux qui ont mis d'espère. Pourtant, j'ai un plan, c'est un meuble IKEA, on s'entend-tu que c'est pas supposé être compliqué? Ou c'est peut-être moi qui a pas le tour. Mais il nous reste tout le temps des vis dans les mains. Suivre un plan, c'est pas toujours évident, parce qu'on ajoute tout le temps notre façon de voir les choses. Je veux améliorer. Moi, je pense que ça va être mieux comme ça. Fait qu'on va faire ci. Ou le gars qui va prendre un plan IKEA puis qui va dire, pas besoin de ça. Puis là, il monte son meuble. À la fin, j'étais supposé avoir une bibliothèque, j'ai une table de salon. Ça va pas bien. Dans la parole de Dieu, il y a multiples exemples où est-ce que Dieu a donné des directives claires. Il a donné un plan. On peut le voir dans l'Ancien Testament avec Israël. Dieu leur avait donné des commandements qui étaient clairs. Et puis, on va regarder ce matin dans Exode 23. Versets 32 et 33. Puis après ça, on va aller voir dans Josué 23, 4 à 7. Exode 23, 32 et 33. C'est dit, tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu serviras leur Dieu, et ce sera un piège pour toi. Dieu est en train de parler à son peuple, est en train de lui donner les directives pour le pays de Canaan. Et puis, il leur dit, tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu serviras leur Dieu et ce sera un piège pour moi. Josué 23, 4 à 7, juste un petit peu plus loin. Josué 23, 4 à 7. Vous voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain, et toutes les nations que j'ai exterminées, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous. Et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous, ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant, ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. On connaît tous un peu l'histoire d'Israël et puis on sait tous que malgré ces commandements clairs que l'Éternel leur a donnés, ils se sont détournés. Ils ont fait des modifications au plan. Et ça a entraîné toutes sortes de conséquences. Et puis les conséquences, on peut les voir dans Juges 1, verset 4. Et ça dit ceci. 1, verset 4, dans le livre des Juges. « Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérisiens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. » Verset 8. « Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent à feu la ville. » Tout ce que là, jusque-là, ça va bien. Le peuple de l'Éternel, Israël, est en train de rentrer dans Canaan avec Josué, et puis sont en train de conquérir les peuples. Ils sont en train d'accomplir ce que l'Éternel leur avait demandé. Ils sont en train de suivre le plan. On est rendu au verset 9. « Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirja Arba, et il bâtit Sheshkaï, Aïman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appela autrefois Kirja Sefer. Verset 17. Judas se mit en marche avec Siméon, son frère, et ils bâtirent les Cananéens qui habitaient à Tsephat. Et ils dévoirent la ville par interdit, et on l'appela Horma. Jusque-là, ça va bien. Le plan est en train de s'accomplir. Il les extermine, comme Dieu leur avait demandé. Verset 18. Judas s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Judas, et Judas se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais ils ne purent chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Première modification au plan. Et puis si on continue à lire, à partir de là, c'est la défaite. C'est la défaite après défaite pour les autres tribus. On avait Juda. Si on continue, défaite après défaite après défaite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait? Il y avait un plan clair, des commandements clairs. Ils en connaissaient les conséquences. Ils ont fait un compromis avec le plan que l'Éternel leur avait donné. Ils ont fait un compromis qui, selon eux, était mieux. On a essayé, mais ils ont des chars de fer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même avoir le territoire? Et puis, bon, ils se sont mis à penser, ils se sont mis à réfléchir, et puis là, ils ont fait un arrangement quelconque, ils ont laissé là, ils ont assujetti. On voit plus tard dans les livres que les autres peuples, les autres tribus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont imposé un tribut à ceux qui n'ont pas exterminé. Ils ont assujetti à des tâches. Versets 22 et 26, on voit que ce que le peuple fait, le peuple était devant la ville. Un homme est sorti de la ville et puis il a dit, je vais vous dire comment rentrer dans la ville et la vaincre. Mais je veux la vie sauve. Ah, le peuple dit, c'est cool, tu nous donnes une solution, et puis là, ça va être plus facile, ça va être plus rapide, puis là, on va arriver à notre but. Fait que là, c'est bon. Fait que là, ils ont fait comme le monsieur lui a dit, puis là, ils ont laissé la vie sauf au monsieur, là, il est parti. Il est parti avec le peuple des Hittites, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que cet homme-là a fondé une ville. Cette ville-là s'appelait Luz. C'était une ville hittite. Mais savez-vous que plus tard, cette ville-là a été une des pires ennemis d'Israël? Un des pires ennemis d'Israël. À cause de ce compromis-là, de ce fait-là, cet homme-là a eu la vie sauve, il est parti, il a fondé une ville, et puis après ça, il a attaqué Israël. Wow! Je suis convaincu que les personnes, quand ils ont fait le traité, ils n'ont pas pensé jusque-là. Comme quand on fait des modifications dans notre maison, on pense que ça va s'arrêter là. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est que ça entraîne autre chose, ça que ça entraîne autre chose. Ce qui t'amène à un cassage de tête beaucoup plus prononcé, beaucoup plus élaboré que ce qui était prévu au début. En fait, un compromis, c'est quoi? Le compromis qu'Israël ont fait, c'était en fait un problème d'attitude. Une mentalité. Abandonner la partie, baisser les bras, préférer la voie facile, obtenir des résultats sans l'effort. Ils ont trouvé une façon plus simple, plus rapide, d'arriver à leur but. Ça part de où? Ça part de notre attitude. Israël avait une attitude qui l'emmenait à faire des choses comme ils l'ont fait, malgré le plan qui était clair. À l'intérieur d'eux, il y a quelque chose qui disait, il y a sûrement une façon plus simple, il y a sûrement une meilleure façon de le faire. Il y a sûrement l'incrédulité, le doute, probablement, de ce que Dieu leur avait demandé, un doute en Dieu. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. Il y a un problème d'attitude chez Israël à ce moment-là. Tu sais, dans la vie, quand que on a tous des péchés dans nos vies. On a tous des choses avec lesquelles on combat personnellement. Et puis, quand on a victoire par-dessus victoire sur ces choses-là, ça va bien. On est encouragé. Merci Seigneur. Ça fait un mois que j'ai pas fait telle chose ou telle chose. Ça fait deux mois. Ça fait un an. C'est encourageant. Mais là, paf, une défaite. Je l'ai faite. Une défaite. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive après? On se décourage. Cette défaite-là amène d'autres défaites. Après ça, arrive la culpabilité. Les défaites amènent d'autres défaites. Puis c'est normal. Puis là, on se demande, Seigneur, pourquoi est-ce que ça marche pas? Pourquoi est-ce que je suis pas capable d'avoir le dessus? À tout bout de champ, ça va bien. Et puis là, je tombe. Est-ce que Dieu aurait pu s'arranger pour que son peuple conquérît le pays de Canaan en une seule journée? Est-ce qu'il aurait pu faire ça? Ben oui. Mais est-ce qu'il l'a fait? Non. Pourquoi? Dans la vie, Dieu a introduit un facteur temps. Et puis ce facteur temps, Dieu l'utilise. Il l'utilise comme ceci. Allez-y, faites ce que je vous demande. Conquérez le pays de Canaan. Dites-vous, vous par interdit, toute la ville, tous les habitants, le bétail, fais-le. Vas-y. Ça leur a pris un mois, deux mois, un an. Puis en bout de ligne, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fait un compromis avec le plan. Le facteur temps est un outil pour voir vraiment entre les mains de Dieu le cœur. les motivations, pour voir jusqu'où. Seigneur utilise le facteur temps. Est-ce que c'est possible que Dieu soit avec Judas, mais qu'ils n'ont pas pu vaincre les chars de fer? Exemple. Est-ce que c'est possible que Judas ait une défaite, mais que Dieu soit quand même avec eux? Oui. Oui, c'est possible. C'est pas parce que tu as une défaite que Dieu n'est pas avec toi. Mais Dieu a des choses à montrer à Israël. Dieu avait des choses à lui montrer. Qu'est-ce que le temps nous amène? Le temps amène la persévérance, la constance, le courage, la foi. La persévérance, la constance, le courage et la foi. Si on réussit tout du premier coup, est-ce que ça va nous aider à développer de la persévérance? Est-ce que ça va nous amener de la constance? Le courage, la foi, s'appuyer vraiment sur Dieu? Je suis convaincu que si on réglerait tous nos problèmes en une journée, on n'aurait peut-être pas besoin de Dieu bien, bien longtemps dans nos vies. Parce que tout est si facile. On a besoin de Dieu dans nos vies. Dieu utilise le facteur temps pour amener ces éléments-là dans nos vies. Est-ce que c'est possible qu'on soit avec Dieu, qu'on n'ait pas la victoire nous-mêmes dans notre propre vie? Oui. Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Il y a juste le facteur temps qui va nous permettre de voir si on va résister au compromis, si on va suivre le plan. Il y a juste le facteur temps qui va nous emmener à voir ça. Dieu peut être avec nous, même si on n'a pas une victoire à chaque fois. Céder ponctuellement, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le compromis, c'est l'attitude. C'est abandonner le combat. C'est l'excuser. Dire de toute façon, oh, c'est abandonner. Baisser les bras. C'est faire un compromis. Dans la vie, Dieu ne nous impose pas un délai. Il n'est pas en train de te demander, vite, fais-le vite, règle ça vite. Mais Dieu, ce qu'il veut nous imposer, ce qu'il nous demande, c'est d'avoir une attitude, une bonne attitude à travers tout ça. De ne pas baisser les bras devant l'ennemi, même s'il y a un facteur temps. Israël a fait un compromis, et cela les a emmenés à la défaite, vers une panoplie de problèmes que leur peuple traîne encore aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui est une conséquence de nos actions dans le passé. Dieu veut qu'on ait une attitude, une bonne attitude, qu'on s'appuie sur lui. Qu'on cherche notre puissance en lui, qu'on dépende de lui. Et le facteur temps est un moyen que Dieu utilise. Vous savez, Dieu traite le péché de façon très sérieuse. Dans Romains 6, 23, ça nous dit « car le salaire du péché, c'est la mort. » Est-ce que c'est sérieux, ça? Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu prend le péché très au sérieux. Et puis, il y a plusieurs autres passages qui nous le démontrent dans la parole. Dieu connaît très bien les conséquences du péché dans nos vies. Qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas, on a tous des péchés. Dieu connaît très bien les conséquences du péché dans nos vies. Dans Jean 8, 34, c'est Jésus lui-même qui dit « Quiconque commet le péché est esclave du péché. » Dans Jean 8, 34, « Quiconque commet le péché est esclave du péché. » Qu'on soit ses enfants ou qu'on ne le soit pas. Qu'on ait Jésus dans notre vie ou non. Le péché. On peut être esclave du péché. C'est sûr que c'est pas ce que Dieu veut dans notre vie. Mais on peut quand même être à l'emprise de nos tendances, de nos désirs charnels. On peut être à l'emprise avec des choses dans notre vie, puis on en est esclave. Parfois même sans rendre compte. Dans Éphésiens 4, 27, ça nous dit ceci. Ne pas laisser de place au diable. Ne laissez pas de place au diable dans vos vies. Pourquoi? Parce que Dieu en connaît les conséquences. Puis, plusieurs endroits dans sa parole, il nous le dit, il nous les avertit. Ne laissez pas de place au diable. Le mot grec pour place signifie terrain, signifie base d'opération. Si on cède du terrain à Satan dans nos vies, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous envahir. Ça va prendre un mois, un an, deux ans, trois ans, dix ans. Mais il va prendre la place pareil, petit à petit. Ne laissez pas de base d'opération à Satan dans nos vies. Satan veut nous détruire. Satan veut enlever aux chrétiens le contentement qu'ils ont en Christ. Détruire le dessein que Dieu a pour nous dans notre vie. Satan a un but, détruire. Et si, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, on lui laisse le terrain pour le faire, il va le prendre. Il ne pourra pas nous enlever, nous arracher de Dieu. Il ne pourra pas enlever Dieu dans notre vie. Mais il va enlever notre efficacité pour Dieu. Il va enlever cette paix qu'on a, qu'on est supposé avoir en Christ. Il va venir arracher tout ce qu'il peut arracher. Dans la vie, si on regarde dans la vie de tous les jours, juste aux nouvelles, il y a combien de personnes qui souffrent? Détruire, détruire, détruire. C'est ça que Satan veut faire. C'est son but pour l'humanité. Détruire, qu'on soit avec Dieu ou non. Pourquoi qu'il y a tant de souffrance? Satan veut détruire. Le jour où tu vas être tellement désespéré que tu vas te suicider, Satan va avoir gagné parce qu'il va t'avoir détruit complètement. Complètement. C'est le but de Satan. Puis on peut le voir dans Jean 10, 10, le but de Satan pour nos vies. Satan désire nous emmener à développer des habitudes pécheresses qui en produiront d'autres, jusqu'à ce que nous en soyons esclaves. Un élément va en entraîner un autre jusqu'à temps qu'on soit embourbé par-dessus la tête. C'est pas plus compliqué que ça. Si on pense que nos péchés sont sans conséquences dans nos vies, on se trompe royalement. On se trompe royalement. Si vous pensez avoir le contrôle sur vos péchés, si on pense que c'est pas si pire que ça, détrompez-vous. Les conséquences du péché dans nos vies sont beaucoup plus sérieuses qu'on pense. La sainteté d'un peuple a été corrompu à cause d'un compromis, à cause du péché. Ils ont donné une base d'opération. Ils ont laissé de la place. Il ne faut pas qu'on se pense plus fort que le péché. Parfois, on en est esclave sans même qu'on s'en rende compte. J'aimerais qu'on tourne ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 10. Où est-ce qu'on a un exemple de ça qui est plus qu'évident. 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont passé au travers de la mer, qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous soyons, que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon ce qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Israël, dans le désert, avait la nuée devant eux. Ils buvaient de l'eau au rocher, à la source que Dieu leur avait donnée. Il y avait la manne. Ils suivaient la nuée tous les jours. Malgré tout ça, ils ont quand même trouvé le moyen de désobéir. Ils ont quand même laissé la place à Satan. Si eux ont fait ça, nous. Le péché, c'est puissant. Le péché, c'est dangereux. Faut pas se penser plus fort que le péché. Très, très important. Malheureusement, le péché détermine beaucoup ce que nous sommes. Mais souvent, on va prendre un trait de notre caractère, mais en fait, on agit comme ça à cause. Il y a quelque chose en arrière. Il y a un péché derrière. On va prendre nos péchés puis qu'on va en faire nos traits de personnalité. C'est quand même particulier, hein? Quelqu'un qui est colérique, est-ce que c'est bien être colérique? Non, mais il est comme ça. Il est comme ça. Il est colérique. Ah, lui, tête enflée, il est orgueilleux. Mais il a toujours été de même. Depuis qu'il est de même, lui, il va toujours être de même. Ah. Lui, il pique tout le temps une crise. À chaque fois qu'on lui dit quoi faire, il part en peur. Ben, il est de même. Si tu veux. Fait que là, quand on les côtoie, on trouve des moyens pour les aborder puis pour pas les faire exploser. Le péché détermine nos actions. Beaucoup plus qu'on peut le penser. Beaucoup de nos problèmes sont de nature spirituelle dans nos vies. C'est une question d'attitude dans nos vies. J'aimerais vous lire une histoire. J'aimerais vous lire une histoire. Ça dit ceci. Jean avait grandi dans une famille dysfonctionnelle où ses parents se chicanaient continuellement. Son père prenait toutes les décisions seul. Sa mère réagissait négativement et Jean en était constamment frustré. Quand il a été assez vieux pour travailler avec son père, son contrôle devint encore plus frustrant. Son père n'arrêtait pas de le contrôler. Jean n'avait pas réalisé qu'il avait hérité de ce même besoin de dominer jusqu'au point où il s'est aperçu qu'il essayait lui aussi de contrôler les membres de sa famille. Quand ils étaient au secondaire, il a commencé à s'opposer à la domination de son père. Il est devenu colérique et rebelle. C'est à ce moment qu'il a découvert la pornographie et que lorsqu'il se concentrait sur ces images, sa frustration diminuait. Anne avait grandi dans une famille où ses parents ne communiquaient pas vraiment l'un avec l'autre. Son père était préoccupé par son travail et n'avait pas de rapport ni avec Anne ni avec sa femme. Il était déterminé à réussir au niveau de son travail et il y mettait beaucoup de temps, de sorte qu'il ne lui en restait que très peu pour les autres choses, sa femme, ses enfants. La mère d'Anne était une personne frustrée, solitaire et remplie d'amertume Anne avait appris à réagir de la même façon que sa mère. Quoique Anne avait espéré ne jamais devenir comme sa mère ou sa grand-mère, elle avait développé le même esprit négatif et critique. Ses sentiments de solitude l'avaient conduit à des pensées négatives et à ne pas se sentir aimée, mais plutôt négligée et sans importance. Le fait qu'ils pouvaient parler de leur situation familiale difficile les a attirés. On parle de Jean et de Anne. L'un à l'autre. Jean partageait ses difficultés d'avoir vécu avec un père contrôlant et Anne celle d'avoir vécu avec une mère négative et critique, qui critiquait tout le temps. Ils avaient donc hâte de se marier et de se débarrasser des problèmes qu'ils vivaient avec leurs parents. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils les emporteraient dans leur foyer, dans leur propre foyer. Une semaine après leur mariage, quand Anne se demanda à Jean s'il pouvait l'aider à faire du ménage, il explosa. Personne ne devait lui dire quoi faire. Anne était restée très surprise et ne s'attendait vraiment pas à une telle réaction, réalisant qu'elle ne pouvait rien demander à son mari sans provoquer une crise de colère. Elle se renferma sur elle-même et est devenue amère envers son mari, tout comme elle l'avait été envers sa mère. Au cours des années, son amertume a empiré et augmenta la distance entre elle et son mari. Anne passait son temps à s'occuper de son foyer et de ses enfants. Pour se libérer de la pression et de la frustration que Jean ressentait face à son épouse, il s'est à nouveau tourné vers la pornographie. Et ils s'éloignaient de plus en plus l'un de l'autre. Anne ne se sentait pas aimée et elle vivait de la solitude. Jean n'était jamais en paix. Il ne supportait pas de se faire dire quoi faire. Jean avait apporté dans son mariage l'orgueil hérité de son père, son besoin de contrôler, ainsi que son attitude rebelle. Anne avait amené avec elle l'amertume transmise par sa mère. Les deux manifestaient maintenant ses traits de caractère l'un envers l'autre. Anne trouvait sa satisfaction dans des valeurs temporelles, comme le faisait son père. À cause de la solitude que Jean ressentait et de son inhabilité à réagir convenablement envers quiconque essayait de le contrôler, il trouva son contentement dans la pornographie. Chacun avait hérité de leurs parents des forteresses, des angles morts, et ainsi de suite. On voit comment est-ce que c'est subtil. Comment est-ce que le péché a envahi tranquillement? Comment est-ce que le péché a fait son chemin dans leur vie? Jusqu'à un point où est-ce que Jean, sa frustration, ça devient un trait de son caractère. Anne, son attitude critique, est devenue une chose naturelle, est devenue un trait de son caractère, sa vie au quotidien. Elle a eu cet exemple-là de ses parents. Mais ses parents, ils l'ont eu de qui? De ses parents. C'est ce qu'on appelle les péchés générationnels, les choses qui se transmettent d'une génération en génération. C'est sérieux, le péché. Ça peut aller loin. Ça a des conséquences qu'on va traîner toute notre vie. Toute notre vie. Au début, je suis convaincu que le couple ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais lorsqu'ils ont découvert ces choses-là dans leur vie, ils ont pu les aborder. Ils ont pu les traiter. Ils ont pu s'en libérer. Si on aurait continué l'histoire, on aurait vu comment est-ce que le Seigneur a agi dans leur vie, comment est-ce que le Seigneur les a libérés de ces choses-là. Le péché est très sérieux. Et puis, selon John Regier, il y a 10 endroits clés où frappe Satan. John Regier, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a, au courant de l'année passée, il y a Daniel Savignac qui est venu ici, il a pris un temps un dimanche matin pour nous présenter son ministère cœur à cœur. Et puis, John Regier, c'est celui qui a conçu le matériel de cœur à cœur qui est aux États-Unis. Caring for the Heart. C'est ça le nom de son ministère. Et puis, à travers le temps, à travers ses sessions de counseling, à force de travailler avec les gens, il a identifié 10 domaines, 10 endroits où est-ce que Satan frappe dans la vie des gens pour prendre le contrôle, pour les emmener à détruire le but que Dieu a dans leur vie. On a l'amertume, la rébellion, l'orgueil, l'immoralité sexuelle, l'occultisme, les péchés générationnels, les valeurs temporelles, les abus de tout genre, physique, sexuel, spirituel, l'hypocrisie, les pensées négatives. Ces 10 endroits où est-ce que Satan se fait un vilain plaisir de frapper parce qu'il sait que c'est des endroits où est-ce que nous sommes faibles. C'est unique à chacun. Selon ce que vous avez vécu, selon ce que vous êtes, selon votre plan familial, selon vos luttes, selon vos expériences de vie. Prenez en note ces 10 choses-là. Mon but ce matin, c'est pas de les développer. Simplement qu'on en prenne conscience. Comment est-ce que le péché peut avoir des conséquences néfastes dans nos vies? À cause que par notre attitude, on lui donne une base d'opération. Comme Israël, à cause de son attitude, a laissé une porte ouverte et ça l'a amené les conséquences que ça l'a amené. On peut les voir parce qu'on a, ils sont écrits. On les a au complet. Si on prenait votre vie, ma vie, et puis on écrirait mon histoire au complet, je suis convaincu qu'on pourrait voir là. Ça, ça a eu des conséquences de ça. Ton attitude à ce moment-là a eu telle conséquence, ça a eu tel impact sur ta femme. Ta femme, a fait, à cause de ça, elle a réagi comme ça, puis elle a développé telle chose, à cause qu'elle a développé telle chose, tu as développé telle affaire. Puis là, tes enfants, à cause que tu es distant, à cause de tel péché dans ta vie, ça a eu tel impact dans sa vie, ça l'a amené à développer telle chose. Mes amis, à cause que je suis comme ça, on se côtoie souvent, ça l'a amené... Ça finit plus. Ça finit plus. Le problème, c'est pas d'avoir du péché dans notre vie. Le vrai problème. Parce que ça, on s'en sortira pas. On va en avoir toute notre vie du péché dans notre vie. On s'en sortira pas. Mais le problème réel, c'est un problème d'attitude. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Monsieur Monosier, Philippe, je crois, il y a 2 semaines, dans sa prédication, il nous a présenté 2 exemples. Celui de Saül et celui de David. David avait un péché dans sa vie. Il avait été adultère. Il avait commis un meurtre. Saül avait délibérément désobéi à l'Éternel en ne dévoyant pas tout son butin par interdit. Il avait gardé le meilleur pour l'offrir au Seigneur. C'était loin de ce que l'Éternel leur avait demandé. Les deux ont été confrontés à leur péché. Mais quand on regarde l'attitude de Saül et celle de David, on peut voir une différence qui est flagrante. Saül a excusé, s'est donné une excuse. « Ouais, ben j'ai fait ça parce que j'ai pensé que ça serait mieux ça. » Et qu'est-ce que David a fait? Il est tombé à genoux et il s'est repenti sur le champ. Puis si vous voulez voir à quel point David a pris son péché au sérieux, lisez le psaume 51. C'était le texte que Philippe nous avait donné. Relisez-le. Psaume 51. Regardez comment est-ce que David se répand devant l'Éternel. Regardez comment est-ce qu'il prend conscience de son péché, de la gravité de son péché devant Dieu. Est-ce que son attitude a fait une différence? Oh que oui! L'attitude face au péché. Laissez-moi vous dire ceci. Notre attitude est un choix. L'attitude est un choix. Qu'il soit conscient ou non, c'est un choix. On en est responsable. On l'a créé ou on a laissé les autres le créer. Mais on en est responsable pour autant. Puis notre attitude affecte tous les domaines de notre vie. Toutes. De quelle façon j'interagis avec les gens? De quelle façon je traite ma femme, mes enfants? De quelle façon je fais face à un problème? Comment est-ce que je résous des conflits? Tout ça est une question d'attitude. Comment est-ce que je réagis? Qu'est-ce que je fais sachant ces choses-là? Laissez-moi vous dire une autre chose. Notre attitude est reliée à notre façon de penser. C'est logique. C'est normal que je vais agir d'une façon cohérente avec ce que je pense. Parce qu'en théorie, c'est notre cerveau qui contrôle tout le reste. C'est ce que je pense, c'est ma façon de voir les choses, c'est mes perspectives. Oui, mais j'ai réagi comme ça parce que lui, il a fait ça, il a dit ça, il a dit ci. Fait que là, moi, j'ai ma perspective de l'événement, donc j'ai réagi comme ça. Fait que notre attitude, notre façon d'agir est contrôlée par notre pensée. Si on ramène ça au péché, ma façon de voir le péché va déterminer l'attitude que je vais avoir envers ce péché. Si, dans le fond, ça, c'est pas si pire que ça. Ouais, mais c'est grave. Ah, OK. Ben, je vais demander pardon pour ça. Seigneur, je te demande pardon parce que je suis menteur. J'ai menti. C'est correct? OK. Là, tu repars. Une autre fois arrive, on ment encore. Mais dans le fond, est-ce que dans ta tête, le péché est réellement si grave que ça? Non. Fait que ta pensée va déterminer ton attitude, la façon que tu réagis au péché. Pour David, le péché était grave. Il a agi en conséquence. Mais si je pense pas que dans ma tête, mon péché est si grave que ça, ben, est-ce que tu veux réellement le régler? Ben, pourquoi est-ce que je réglerais quelque chose où il n'y a pas réellement un problème? Alors, peut-être pour faire assemblant, pour faire plaisir à un tel, pour bien paraître, pour ci, pour ça. Pour calmer les autres, là, pour qu'ils me laissent tranquille avec ça. Mais dans le fond, est-ce qu'on le règle réellement? Est-ce que pour nous, c'est réellement grave? Dans notre pensée, dans notre tête. C'est parti, ça y est. Le péché est grave. Pourquoi on tolère dans nos vies l'intolérable? Pourquoi tolérer l'intolérable? Le péché divise. brise des vies, des familles. Le péché blesse, divise, manipule. Le péché détruit. Pourquoi tolérer l'intolérable? On a dans la parole de Dieu tout ce qu'on a de besoin pour réellement comprendre la gravité de notre péché. Les 10 éléments que je vous ai donnés, que John Rieger a identifiés, on trouve des réponses à ça dans la parole de Dieu. Si vous ne pensez pas que ces choses-là sont si graves dans vos vies, ben, prenez le temps d'ouvrir la parole et puis de voir ce que la Bible en pense. Qu'est-ce que Dieu en pense? Allez chercher cette information-là. Parce qu'elle est disponible, elle est là. Elle est dans la parole de Dieu. Mais simplement prendre l'information, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on va loin avec juste de l'information? Non. Bon, j'ai cette information-là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment est-ce que ça, c'est pertinent pour moi dans ma vie? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça va régler? Qu'est-ce que ça va m'emmener? Développez une juste perspective de cette information-là. Pour vous, personnellement, dans vos vies. Méditez la parole de Dieu. Méditez l'information. Méditez les vérités bibliques. Parce qu'ils vont vous emmener à vous approprier ces choses-là et puis à voir, moi, par rapport à ce que Dieu dit sur l'amertume, où est-ce que j'en suis? Dieu dit ça sur l'amertume. C'est en plein ce que je vis. Oui, puis ça m'amène à penser, si je continue, je regarde, ma femme a fait comme ça ces temps-ci. Pourquoi donc? Vous comprenez? Puis là, tout s'enchaîne. On va voir la gravité, les conséquences que le péché a dans notre vie. Si on prend l'information, qu'on développe la juste perspective par rapport à cette information-là, ça va devenir utile. Ça va nous emmener à ce qu'on appelle la connaissance. Mais la vraie connaissance, la bonne connaissance, celle qui est en accord avec la parole de Dieu, celle qui nous dit « Appuie-toi sur Dieu, puise ta puissance en Dieu. » Fais la chose qui est bien. La vraie connaissance. Et puis en plus, si on prend la connaissance, puis qu'on y rajoute l'action. Là, ça va être puissant. Ça va être puissant. Puis là, vous allez voir des changements dans vos vies. Vous allez voir des changements dans vos vies. Vous allez avoir la victoire. Puis même si vous allez avoir la défaite, vous allez quand même vous appuyer sur Dieu. Parce que vous allez avoir une juste perspective de qui vous êtes en Dieu et qu'est-ce que Dieu veut dans vos vies. Si on prend le temps de s'asseoir, de la lire, de la méditer et de la mettre en action. Le péché, c'est grave. On peut nier le péché dans notre vie. On peut le rationaliser. C'est pas si grave que ça, dans le fond. C'est juste ça. C'est pas si pire. Ou on peut le mettre sur la faute d'un autre aussi. Mais j'agis de même parce que lui, il a fait ça, puis là, OK. Toi, t'as pas de problème. Non, c'est lui. C'est trois attitudes qu'on peut avoir envers le péché. Ou une quatrième, à l'exemple de David. Réaliser l'importance, sa gravité, ses conséquences. Ces conséquences qui ont un impact jusque dans votre éternité. C'est pas juste terrestre, c'est éternel. C'est éternel. Vous l'avez vu plus tôt. Voici un petit plan, simplement pour nous aider à aller chercher les choses au bon endroit. Dans ça, ce que je veux, c'est vous encourager à trouver ces choses-là dans la parole de Dieu. Si vous avez identifié un domaine dans votre vie où est-ce que vous êtes plus faible qu'un autre, prenez une feuille, prenez un papier, et puis définissez le problème. Amertume, orgueil, immoralité sexuelle, peu importe. Prenez une feuille de papier, puis définissez le problème. Après ça, écrivez tous les termes utilisés dans la Bible pour décrire le problème. Faites une étude de mots. Ah, je pense que ce mot-là est relié, ainsi de suite. Écrivez-les. Faites pas juste le penser, là. Écrivez-les. OK? Après ça, écrivez toutes les questions qu'on a par rapport au problème. Qu'est-ce que Dieu en pense? Quelles conséquences ça peut avoir? Toutes les questions que vous avez. OK? Peu importe c'est quoi, soyez honnête avec vous-même. Après ça, étudiez chaque passage ou exemple du problème qu'on retrouve dans la Bible en utilisant des outils. Faites une étude. Prenez le temps. Ça vaut la peine. Il y a tellement d'outils aujourd'hui. Concordance, dictionnaire biblique. Prenez simplement la parole de Dieu, lisez les textes, écrivez vos observations. Puis, à la fin, écrivez tous les principes bibliques en rapport avec le problème que vous avez ressorti. Écrivez-le. C'est quoi les conclusions de ce que vous avez étudié? Méditez sur ces choses-là. Méditez. Puis, appliquez les principes dans vos vies. Pour attaquer le péché dans notre vie, pensez-vous que la parole de Dieu nous donne des principes? Pensez-vous que la Bible en traite? Oh que oui! Oh que oui! Il y a des richesses! Mais, est-ce qu'on va les chercher? Est-ce que dans le fond, c'est si grave que ça que j'ai ça dans ma vie? Tout dépend de la façon qu'on le voit. Mais je peux vous dire que la parole de Dieu, elle trouve ça grave. Le péché est important aux yeux de Dieu. Et puis, ce qui fait la différence, c'est notre attitude envers le péché. Comment est-ce qu'on y pense? Comment est-ce qu'on le voit? Quelle perspective qu'on a de ça dans notre vie? Si on a un péché dans notre vie, est-ce qu'on désire la voie facile, la voie rapide? Si c'est ça, bon, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps, un soir, puis on va demander pardon à Dieu pour ça, ça, ça. Ça, c'est la voie facile, c'est la voie rapide, mais c'est la voie superficielle. Prenez le temps avec Dieu. Dites les vraies choses. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Bon, on a les moyens. On a nos frères, nos sœurs aussi. Et puis ça, c'est puissant, ça aussi. On a nos amis, notre famille, nos frères et sœurs dans le Seigneur. C'est pas à négliger. Ayez de l'amour les uns envers les autres. Et à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ayez de l'amour. C'est aimer un frère que de l'aider à attaquer ses choses, ses péchés dans sa vie. Puis aller devant Dieu avec lui. Quand il se confesse. Quand il se répand devant l'Éternel parce qu'il a compris la gravité de son péché dans sa vie. Et puis maintenant, il a la bonne attitude envers ce péché-là dans sa vie parce qu'il agit, il le traite. Basé sur la vérité, basé sur la parole de Dieu. Ne tolérons pas l'intolérable dans nos vies. Très important. Et combattons le péché parce qu'il est lourd de conséquences. Ne faisons pas de compromis. Ayez une bonne attitude en rapport au péché dans votre vie. N'oubliez pas, n'oubliez jamais. Dieu veut votre bien. Dieu veut votre édification. Dieu veut vous libérer de vos souffrances, des blessures qu'on a à l'intérieur. Il veut vous en libérer. On a besoin d'aller devant lui, confesser, écrire, dire, se répandre devant l'Éternel, avoir une bonne attitude, de ne pas tolérer ces choses-là dans nos vies. Ça fait toute la différence. Ne doutons pas de la bonté de Dieu. Quand Dieu dit que si on confesse notre péché, il va nous faire du bien, il va nous libérer. C'est ce qu'il veut réellement dire. Puis c'est réellement ce qu'il veut faire. Dieu ne nous compte pas de mentir. Si vous ne connaissez pas Dieu dans votre vie, et il y a des domaines, il y a des choses dans notre vie qu'on a des difficultés à accepter, il y a des choses dans notre vie qu'on garde pour nous, des blessures, des amertumes, des choses. Gardez pas ça pour vous. Dieu est le seul qui peut vous libérer de ces choses-là. Ah, on peut mettre des pansements sur ces choses-là, sur ces souffrances-là, sur ces péchés-là dans nos vies. Mais je vous le dis, seulement Dieu peut les guérir. Seulement Dieu peut les guérir. Les conséquences du péché dans nos vies sont lourdes, très lourdes. On s'en rend même pas compte. Prenez le temps. Ne tolérez pas l'intolérable dans votre vie. Prenez le temps d'ouvrir la parole et puis de voir qu'est-ce que Dieu en pense. Ça va vous convaincre. J'en suis convaincu de passer à l'action. C'est ce que Dieu veut. Passons à l'action. Ne tolérons pas l'intolérable. Prions. Seigneur Dieu, tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu merveilleux. Ah oui, Seigneur, on veut te louer, on veut te remercier. Parce que, Seigneur, tu es patient avec nous. Tu es bon avec nous, Seigneur. Dans ta parole, tu nous donnes une juste perspective, Seigneur, du péché dans nos vies. Et Père éternel, tu nous donnes aussi les moyens pour les régler. On veut s'appuyer sur toi, Seigneur, toi qui es le rocher, notre appui. On veut puiser notre force en toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de ne pas tolérer l'intolérable dans nos vies. D'identifier, Seigneur, d'agir les choses qui, pour régler les choses qui ne te glorifient pas, qui ne te louent pas dans nos vies. Parce que, Seigneur, on veut te louer. On veut te louer, Seigneur, par nos vies, nos actions, nos paroles. C'est ce qu'on désire. Merci, ô Dieu, pour tes grandes bontés, pour ton amour qui nous restaure. Sois loué, Seigneur. Amen.